RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique et avec Véronique Rigolet, nous recevons Benjamin Griveaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. Merci et bienvenue donc dans cette émission. Alors une loi est en préparation et elle est explosive, c'est la loi immigration-asile. Alors l'exécutif, on le voit, marche sur des œufs car le sujet est sensible et certains parlent déjà d'un malaise dans la majorité. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, lui, déjà est clairement la cible des associations d'aide aux migrants. Le ministre veut contrôler les étrangers sur les lieux d'hébergement, en clair que les agents de la préfecture, de l'OFPRA pour être précise, puissent trier. Ça, c'est l'expression ce matin de Monsieur Toubon. Ceux qui peuvent bénéficier du droit d'asile et les autres. Ils ont saisi donc le défenseur des droits, Jacques Toubon. On l'écoute.
Il y a dans la situation des étrangers dans notre pays, y compris ceux qui résident dans notre pays, et d'autre part de ceux qui veulent y venir, les migrants, comme on les appelle aujourd'hui, il y a un défaut par rapport, une défaillance nette par rapport au respect des droits fondamentaux. Je pense que certaines des dispositions qui sont envisagées aujourd'hui risquent de tomber sous le coup d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme.
Alors Benjamin Griveaux, on va vous poser cette question. Est-ce que cette disposition peut-elle être frappée d'illégalité ?
Alors déjà, il y a deux choses différentes. Il y a une circulaire, d'une part, qui a été signée le 12 décembre par Gérard Collomb et par Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires et donc le ministre de l'Intérieur. Et puis ensuite, il y a un projet de loi qui sera présenté à la rentrée 2018 et qui sera débattu au Parlement, qui est le projet de loi Asile et Immigration. Ce sont deux textes différents. Mm-hmm. Il y a une circulaire qui concerne les centres d'hébergement et les équipes mobiles qui vont être mobilisées pour se rendre dans ces centres d'hébergement. Il ne s'agit pas en aucune manière de mettre les gens à la rue. Il s'agit tout simplement, et vous l'avez dit, ce sont des agents de la préfecture, des agents de l'Office français d'immigration et de l'intégration, de l'Office.
Pas des policiers.
Pas des policiers qui vont se rendre dans les centres dont on ignore aujourd'hui qui sont les personnes présentes. Il y a des personnes qui sont présentes qui sont des personnes sans abri. Vous avez des personnes qui sont des réfugiés disposant d'un titre d'asile. Ouais. Vous avez des personnes qui sont en attente. Et puis des personnes qui ont été des déboutés du droit d'asile. Il est simplement question de savoir qui est présent dans ces centres.
Ouais. Oui, mais il a l'air de dire que c'est une sorte de sanctuaire dans lequel on ne peut pénétrer pour faire un tri.
L'inconditionnalité de l'accueil n'est pas remise en cause. Ouais. Ce que nous opposons, nous, c'est qu'on ne peut pas le faire de manière totalement indifférenciée. Mais l'inconditionnalité n'est pas remise en cause. Que les choses soient très claires, les équipes mobiles ne comprendront pas des forces de l'ordre, elles n'auront pas de pouvoir de contrôle d'identité, elles n'auront pas de pouvoir de mettre les gens à la rue, si c'est ça l'inquiétude légitime que j'entends du défenseur des droits. Oui, mais il ne faut pas tomber dans la caricature. Et à nouveau, j'attire l'attention, cette année, 138 000 places d'hébergement, soit 12 000 places supplémentaires, ont été ouvertes, ce qui est important, et ce sera à nouveau le cas l'an prochain avec des places supplémentaires. Donc, il faut bien dissocier les deux sujets. Ça, c'est le premier. Oui. Sur la circulaire.
Oui, mais une fois, pardonnez-moi, mais soyons concrets. Une fois que, si, mettons que cette circulaire soit autorisée,
Elle est autorisée, elle est signée.
Une fois qu'on fait le constat que des personnes n'ont pas le droit d'asile, est-ce qu'elles sortent du centre, on va dire, manu militari?
Elles doivent être orientées vers les bonnes structures. Mais il n'y aura pas des policiers, pour faire clair, qui les attendront à la sortie du centre pour les emmener dans d'autres structures.
Est-ce qu'on joue pas un
peu sur n'est pas l'esprit ni la lettre de cette circulaire.
Mais in fine, est-ce que ça revient un peu au même ? Bon, ok, ça ne sera pas des policiers, puisque ça serait proprement illégal, mais des personnels, des équipes mobiles de la préfecture qui viendront recenser ces réfugiés, est-ce qu'ils ne risquent pas, bien sûr, de faire peur à tous ces gens qui n'ont pas de papier et donc ils savent que s'ils sont recensés, ils seront expulsés.
La question n'est pas de faire peur. La question est simplement de savoir, quand on a 138 000 places d'hébergement, qui occupe ces places d'hébergement. C'est aussi simple que cela.
Mais c'est aussi la conséquence.
Il n'y a pas d'autre velléité que celle-là, que de savoir qui est en centre d'hébergement, ce qui relève simplement de l'état de droit.
S'il y a recensement, il y aura la crainte des sans-papiers d'aller dans ces centres d'hébergement, non ?
Mais, à nouveau, Si les personnes sont en règle, qu'elles sont demandeurs d'asile, qu'elles ont une procédure en cours, qu'elles sont réfugiées, elles y ont parfaitement leur place.
Absolument, mais tous les autres.
Les personnes qui sont des déboutés du droit d'asile, par définition, n'ont pas vocation à rester sur le territoire si on applique le droit. Moi, je ne sais pas expliquer que, et on assume parfaitement de dire que la France a une tradition d'accueil. C'est la tradition de la République. Et cet accueil-là, il n'est remis en cause en rien. Les personnes qui légitimement répondent aux critères du droit d'asile ont asile en France.
Donc la France...
Ça n'est pas remis en cause, que les choses soient très claires. En revanche, il y a des personnes qui ne correspondent pas aux critères du droit d'asile.
Ouais.
C'est donc contraire à la loi. Et donc c'est simplement le respect de la loi. À nouveau, personne ne sera mis à la rue et les personnes qui seront chargées d'aller examiner la situation administrative des personnes présentes dans les centres d'hébergement n'auront pas vocation... n'ont pas le pouvoir ni de contrôler les identités, ni de les mettre
en place. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la France sera irréprochable sur le droit d'asile, en quelque sorte.
Humanité et honnêteté, c'est très simple. Humanité, oui. C'est l'accueil de toutes les personnes légitimes, et encore ont été accueillies 56 personnes en Alsace ce matin, 21 mineurs, des enfants, qui viennent notamment des centres au Tchad et au Niger, où vous savez qu'on a une mission de l'OFPRA, en lien avec le Haut Commissariat aux réfugiés, pour permettre d'identifier... Là-bas, plutôt que de dire, on identifie une fois qu'ils arrivent en Europe et en particulier en France, et donc avec le voyage, le coût du voyage, le coût des passeurs, les viols sur les femmes, les décès en mer Méditerranée ou sur le chemin, c'est de se dire, sur site, on identifie les personnes qui sont éligibles au droit d'asile et la France respectera
Alors,
sa tradition.
Alors, ce que vous parliez, vous parliez des agents, des fonctionnaires de l'OFPRA qui vont aller... au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans les pays du Sahel. Voilà, c'est fait.
C'est fait.
Mais est-ce que c'est pas un peu une goutte d'eau ? Est-ce que pour que ce soit efficace, il ne faut pas qu'il y ait un accord avec plusieurs pays qui fassent
la France accueillera d'ici 2019 de personnes issues de cette zone-là géographique. Plus de 3000 personnes, ça n'est pas une goutte d'eau. Je rappelle que chaque année, il y a 95 000 demandes d'asile qui sont formulées et qu'un tiers des demandeurs d'asile obtiennent le droit
d'asile. Mais il faut combien de fonctionnaires de l'OFPRA, par exemple au Niger ?
Difficile de vous répondre, mais la mobilisation aussi des forces de sécurité des pays limitrophes, et c'est tout l'objet de la réunion qui s'est tenue en marge du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine lors du déplacement du président de la République en Afrique, avait pour objectif aussi de déterminer les personnels de police de la police africaine pour nous permettre d'identifier les personnes et d'éviter ces trajets qui sont coûteux, qui font des morts et qui sont la honte de la Méditerranée.
On parlait de ce recensement dans les centres d'hébergement. Vous nous dites, mais non, ça fera peur à personne. Bon, de fait, on voit comment la peur du gendarme force des centaines de migrants dans les Alpes françaises à la frontière italienne, aller se perdre dans la neige en pleine nuit. Par rapport à ce drame et à cette peur du gendarme, qu'est-ce que vous répondez ?
On ne peut pas rester de marbre face à des situations. J'ai vu le reportage auquel vous faites allusion. Ces passeurs qui... ce ne sont pas des passeurs d'ailleurs. Personnes qui s'engagent la nuit.
Dans la montagne.
Souvent faiblement vêtues.
Par peur des policiers qui en bas.
Bien sûr. Mais le drame... C'est pas qu'ils aient la peur des policiers ici, c'est toutes les raisons qui font qu'ils ont dû quitter leur pays pour des raisons de guerre, pour des raisons de persécution, pour des raisons de déportation de population. C'est là le drame. Et donc, dans la politique d'immigration et dans la politique d'asile en France, il y a aussi ce qui se passe en Afrique. C'était le sens du déplacement du président de la République, de dire stabiliser politiquement les pays de départ. Et ça, il faut que les pays de l'Union africaine prennent leur part dans cette stabilisation politique, développer économiquement afin d'éviter les migrations économiques, parce que bien souvent, les personnes qui prennent le chemin sont des personnes qui ont des qualifications et qui, dans leur pays d'origine, permettraient à leur pays d'origine de se développer. Ça n'est pas le cas aujourd'hui suffisamment, donc c'est une politique globale.
Ouais.
À la fois humanité sur l'asile, à la fois fermeté et honnêteté pour des personnes. On a aujourd'hui des gens, quand ils arrivent, on a 14, 15, 18 mois, 24 mois d'instruction. Et donc, on laisse les gens dans un no man's land juridique et dans une incertitude qui n'est pas l'honneur de la République. L'objectif, c'est de pouvoir traiter ces cas en 6 mois, d'avoir un délai restreint, parce qu'il est beaucoup plus difficile de faire repartir quelqu'un dans son pays parce qu'il n'est pas éligible au droit d'asile quand la personne est là depuis 18 mois, 24 mois, a trouvé un travail, s'est installée. On comprend bien humainement, il n'y a pas d'insensibilité
que
les choses soient très claires là-dessus. Ouais. On est sensible à ces situations de détresse humaine.
Mais et on fait quoi Vous nous expliquez ce qu'on doit faire en amont et le nécessaire respect du droit, mais on fait quoi pour ces migrants qui se perdent dans la montagne au grand dam des montagnards qui habitent là-bas et qui leur prêtent assistance et qui seront convoqués ensuite.
D'abord, on les recueille et ils sont recueillis par les montagnards. Moi, je veux saluer les personnes parce que là, c'est de l'assistance à personne en danger.
Ils seront plus convoqués par la police.
Que les choses soient très claires. Ouais. Les montagnards qui aident ces personnes sont les mêmes que les sauveteurs qui, en Méditerranée, vont récupérer ces personnes qui, de manière désespérée, empruntent des canaux de sauvetage pour pouvoir traverser la Méditerranée. Il faut donc leur porter secours. Ça, il n'y a pas de sujet. En France, quand une personne est en danger de mort, il y a une obligation de pouvoir lui porter secours.
Alors, on l'a compris, cette loi, il s'agit aussi d'expulser davantage et mieux. L'autre volet, le ministre veut allonger la durée légale de rétention dans les centres. 45 jours actuellement contre 90 jours. Pourquoi cet objectif? Pourquoi l'allonger? Est-ce qu'il est toujours d'actualité d'abord? Et est-ce que ça va pas poser un problème de place?
Ce sera dans le débat parlementaire, donc je ne veux pas préempter le débat qui se tiendra. Vous dire que parfois 45 jours, ça n'est pas suffisant pour permettre d'établir la situation administrative de quelqu'un. Oui. Vous dire qu'on est en deçà des moyennes européennes que d'autres pays européens font et qui ne sont pas condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme, comme j'ai pu l'entendre, qu'il y a même des pays qui vont jusqu'à 180 jours, donc 4 fois plus que le délai français. Il n'est pas question d'aller dans ces extrémités-là. Oui. Et que simplement permettre d'avoir une meilleure instruction, c'est aussi permettre d'avoir une meilleure identification de la situation juridique des personnes et de pouvoir traiter le plus efficacement possible, possiblement de manière accélérée, les cas de ceux qui vont être admis à rester à l'asile et qui vont obtenir le droit d'asile et de ceux qui en seront déboutés.
Mais à nouveau, là, la règle sera strictement appliquée. Les demandeurs d'asile ont vocation à rester. Les migrants économiques seront renvoyés?
Non, il y a des migrants économiques chaque année qui arrivent en France. Je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas de migrants économiques, c'est inexact. Il y a des migrants économiques chaque année.
Mais est-ce que vous n'êtes pas irréprochable sur le volet asile pour être plus ferme sur le volet de migrants économiques?
Ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel nous travaillons, ce n'est pas l'état d'esprit qui va animer les débats autour de ce projet de loi qui sera présenté à la rentrée 2018. À nouveau, le président de la République, il a fixé le cap. Dans le cadre de l'élection présidentielle et depuis l'élection présidentielle, dans le cadre du discours d'Orléans, dans le discours qu'il a donné aux préfets à la rentrée de septembre, l'asile, la France, est une terre d'asile et nous assumons parfaitement le rôle de la France et le rôle de la République d'accueillir les personnes qui sont persécutées, qui sont des réfugiés politiques. Ça n'est pas remis en cause.
Mais
en cause, c'est... Et si on regarde la situation actuelle, elle est héritée des atermoiements des 20 dernières années, du flou juridique qui... est celui dans lequel sont plongés des milliers de personnes. Et donc, il faut y mettre un terme. Ça n'est ni l'honneur de la République que d'avoir des personnes qui ne savent pas dans quel statut juridique elles sont sur le territoire français. Et ça n'est pas l'honneur de la République de ne pas pouvoir donner le droit d'asile à des personnes qui légitimement y ont droit.
Benjamin Griveaux, vous parliez de la politique d'immigration avant Emmanuel Macron. Vous diriez qu'elle a été quoi? Ferme, laxiste, impuissante? Quel est le mot que vous employeriez?
Je ne sais pas si on peut qualifier, vous savez, en un mot, c'est toujours
aujourd'hui,
compliqué.
Vous,
on est
vous
face à des situations. Quand on regarde la situation, on se dit que il est nécessaire de le faire avec plus d'humanité et plus d'honnêteté vis-à-vis des migrants. Plus d'honnêteté.
C'est-à-dire plus d'honnêteté.
Plus d'honnêteté, c'est-à-dire que dire rapidement à des personnes si elles sont éligibles ou pas au droit d'asile et ne pas les laisser dans un flou juridique qui fait qu'elles restent 12, 18, 24 mois sans savoir si à la fin elles seront déboutées ou pas de leur droit d'asile.
Parce que là, selon le ministre de l'Intérieur, qui parle de 95 000 demandes d'asile chaque année, on sait bien qu'en 2016, il y en avait 85 000, je crois, c'est un quart seulement. La France, malgré sa tradition, sa terre d'accueil, est-ce que, comme pour paraphraser Michel Rocard, et d'ailleurs c'est ce qu'avait fait Emmanuel Macron, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais prendre sa part?
Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Les personnes qui sont éligibles et qui remplissent les critères du droit d'asile ont asile en France. C'est aussi simple que cela. C'est ce que nous faisons.
Mais ce ne sera pas les 95 000.
Et vous dites, voilà,
Parce que dans les 95 000, certaines ne sont pas éligibles aux critères du droit d'asile. Oui. C'est tout simple.
Alors vous avez commencé en disant plus d'honnêteté, on vient de décrire, plus d'humanité. Elle est où l'humanité dans la gestion de ce dossier?
Elle est dans les 12 000
tasses d'urgence
supplémentaires. 12 000 places supplémentaires.
Donc c'est la réponse au maire, là
Elle est dans l'augmentation du 18% du budget de l'intégration. Vous savez, ça n'est pas seulement des bons sentiments, la politique d'immigration, d'accueil. C'est aussi des chiffres, c'est aussi des moyens à mettre en place et des moyens à mettre en face de situations et des détresses absolues. C'est ce que nous faisons.
La plupart, vous en parliez tout à l'heure du problème démographique en Afrique. C'est vrai, selon les chiffres de l'ONU, il y a une bombe démographique qui se prépare, notamment 2050, c'est les chiffres de l'ONU, il y aura 2,6 milliards d'habitants sur le continent africain. Vous dites quoi ? Emmanuel Macron s'était un petit peu essayé lors du G7, lorsqu'il avait évoqué ces femmes qui avaient 7 à 8 enfants par femme. Il avait évoqué un problème civilisationnel, il s'était excusé pour le terme. N'empêche que le sujet reste un vrai problème pour l'Afrique aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il faut inviter les chefs d'État africains à avoir une politique de planning familial, par exemple ?
Une chose est certaine, c'est que c'est la société civile du continent africain qui prendra en main le destin du continent africain. C'est aussi le message qu'a délivré le président de la République lorsqu'il s'est rendu, et notamment dans l'échange qu'il a eu à Ouagadougou, un échange, on le reconnaîtra, assez inhabituel, avec des interpellations et des questions directes de la part des étudiants. En disant une chose simple, c'est que l'éducation, et en particulier l'éducation des femmes, sera la condition sine qua non pour permettre à l'Afrique d'entrer pleinement dans le 21e siècle, sur le développement économique, sur l'éducation, sur la formation, et où vous avez une société civile, et vous le voyez, vous avez aussi une responsabilité, d'ailleurs, en France et sur le continent européen, de la diaspora africaine. Et vous rencontrez beaucoup de chefs d'entreprise africains qui vivent en France et qui ont envie d'aller permettre l'émergence de cette société civile africaine. À côté, évidemment, de l'action gouvernementale et du travail intergouvernemental classique, il y a un rôle particulier, et sans doute y a-t-il un rôle particulier pour la femme avec des obligations d'éducation. C'est en éduquant, c'est par l'éducation qu'on arrivera.
Oui, mais l'impulsion, est-ce qu'elle ne doit pas venir
progresser.
Non plus de la part des chefs d'État africains aussi pour faire cet effort ?
Je crois le message qui a été délivré dans le cadre de ce déplacement, c'est le message qui est rappelé à chaque fois, et ça peut aussi partir d'initiatives privées. Il y a les initiatives gouvernementales qui sont bonnes, mais il y a aussi les initiatives privées, il y a les échanges universitaires, il y a les collaborations universitaires entre la France et l'Afrique, mais au-delà de la France, il faut sortir de ce tête-à-tête entre l'Union européenne et l'Afrique. Il faut que c'est une responsabilité de l'Union européenne. C'est une responsabilité européenne que de permettre à l'Afrique de s'engager pleinement sur ce chemin de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de l'innovation.
Ce qui sera un travail de longue haleine alors que l'urgence est maintenant.
Oui, enfin,
il faut bien commencer quelque part.
On ne répond à l'urgence que par l'urgence. On ne fait jamais rien de structurel. Et on fait que le problème qui a été identifié il y a déjà 15 ou 20 ans est le même 15 ou 20 ans après, empire. En plus compliqué,
le problème
avec le problème démographique que vous évoquiez, avec les sujets migratoires, il y aura 450 millions de jeunes Africains qui entreront sur le marché du travail à un horizon 10 ou 15 ans. Bon, qu'est-ce qu'on leur propose ? Qu'est-ce qu'on propose ? C'est le plus jeune continent au monde, non pas par l'âge, mais par les générations qui y sont.
Ouais,
et donc, il y a un potentiel incroyable de création et d'innovation. Et on le voit, quand vous vous rendez dans des sommets, moi j'ai eu l'occasion, lorsque j'occupais mes fonctions à Bercy, de me rendre dans quelques pays africains, vous voyez tout de suite qu'il y a un changement majeur. Ils sont en train de s'emparer de leur destin, notamment sur le plan économique. Mais c'est à cela qu'il faut aider, c'est à cela qu'il faut contribuer, c'est par des partenariats, c'est par des coopérations intelligentes avec les universités, les entreprises, pour permettre...
Donc, il faut revoir les programmes de financement, les cibler plus.
Vous savez, rien n'est gravé dans le marbre. Il faut revoir les programmes dont on considère qu'ils ne sont pas efficaces et peut-être réorienter certains fonds vers, justement, l'éducation. L'université, c'est par l'intelligence, c'est par l'économie de la connaissance que l'Afrique sortira, se projettera dans l'avenir et prendra en main son destin.
Et là aussi, il faudra une révolution.
Mais vous savez... La noblesse de la politique, c'est de pouvoir s'inscrire aussi dans le temps long. Il faut parfois répondre à l'urgence. C'est ce que nous faisons sur la question migratoire, avec l'OFPRA et avec le HCR sur place. Mais c'est aussi inscrire dans un temps long une réflexion et la relation apaisée entre l'Union européenne et le continent africain.
Alors, on va parler dans quelques instants de l'aspect politique de cette loi.
En deuxième partie, c'est la fin de cette première partie. On vous retrouve juste après un flash d'infos, Benjamin Griveaux.
RFI. RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec notre invité Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. On va finir de parler de cette loi immigration-asile, mais cette fois-ci sur l'aspect politique. On sent bien qu'au sein de votre parti, au sein de la majorité, il y a quand même des tensions sur ce sujet-là, sur cette loi. Faut pas oublier que La République En Marche, ils sont venus de partout, de la société civile, certains de la gauche, du PS, comme Monsieur Castaner. Bref, on ne sait pas tellement comment ils vont réagir, mais on sent que chez certains, ça coince un petit peu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un consensus sur cette loi dans votre majorité ?
Il y a une forme de paradoxe, parce que, ou d'aporie, quand tout le monde est d'accord, on crée à la caporalisation et sont des députés Godillot, et quand il y a des débats, subitement, c'est un début de fronde et personne ne s'entend. Donc, il est légitime qu'il y ait des débats, et il y a toujours eu des débats au sein du groupe sur les textes. Il y a eu des débats sur la loi de moralisation, il y a eu des débats sur le projet de loi de finances, il y a eu des débats sur les ordonnances. C'est sain d'avoir des débats au sein d'un mouvement politique dont vous avez rappelé qu'il a une diversité d'origine politique, professionnelle, etc. C'est sain. Donc ces débats, ils vont se conduire. Aurélien Taché, jeune parlementaire, oui. On lui a confié une mission. Il va y avoir des débats au sein du groupe. Et puis, c'est le travail normal d'un texte présenté par le gouvernement. Ce travail-là se fait toujours en bonne intelligence et dans un échange permanent avec le Parlement. C'est ça, c'est le rôle de la démocratie, c'est le rôle du Parlement. Il ne faut pas y voir de la fronde ou des postures, etc. Ce dont je suis certain, c'est que chacun défendra sans arrière-pensée ses convictions en sincérité. Et ça, c'est sans doute un élément nouveau, parce qu'avant, il y avait des postures en disant « moi, je vais me positionner plus à gauche ou plus à droite, etc. » Là, ce dont je suis certain, c'est que chacun ira avec son honnêteté intellectuelle et avec sa sincérité débattre d'un texte qui, à nouveau, n'est pas encore sur la table. Donc, on est en train de faire le débat avant le débat.
Oui, mais pour le peu, là, on parlait pas de fronde, c'est vous d'ailleurs qui avez prononcé le mot, on parlait d'un certain malaise, et notamment, et toujours, par rapport à cette circulaire Collomb sur le recensement. La patronne de la commission des affaires sociales, Brigitte Bourguignon, voilà, cherchait son nom, parle déjà de la possibilité d'amender le texte et souligne la nécessaire concertation avec les secteurs associatifs. Ça sera une évidence pour vous, voilà.
Gérard Collomb et Jacques Mézard ont reçu le monde associatif. Certains ont quitté le bureau avant la fin de la discussion, mais enfin la moitié d'entre eux sont restés. Donc cette discussion avec le monde associatif, elle a déjà eu lieu. Et elle se poursuivra.
Oui, mais on voit ce
évidemment.
Que ça a donné. Ils en appellent les défenseurs
des droits. Et Brigitte Bourguignon est une parlementaire chevronnée. Elle sait parfaitement que les parlementaires pourront amender le texte. Tous les textes qui sont présentés par le gouvernement ont des amendements au Parlement. C'est heureux. Ça a été le cas du projet de loi de finances qui a été débattu. Ça a été le cas du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce sera le cas de ce projet de loi-là. C'est normal. C'est dans cet échange-là que se construit sans doute de la décision politique plus intelligente, parce que elle établit un consensus plus large.
Non, mais rappelez-vous comme la loi de la déchéance de nationalité avait divisé. Bien évidemment, ça n'a rien à voir. Mais c'est un sujet quand même. C'est un sujet qui peut diviser, qui peut heurter certaines sensibilités.
J'ai entendu la comparaison avec la déchéance. Ça n'a rien à voir. La déchéance était contraire aux valeurs de la République historique, contraire et inefficace sur le plan pratique. Elle avait la double difficulté d'être moralement.
Ton François Hollande avait fait une énorme erreur, alors.
Pragmatiquement, impossible à mettre en œuvre et ne présentant aucun intérêt pratique.
Donc ce fut une erreur pour.
La double peine.
C'était
Donc, ça n'a rien à voir.
Benjamin Griveaux, c'était une erreur de la part de François Hollande de la proposer ?
Je pense qu'il en a lui-même pleinement conscience.
Certains ont dit même une faute, il l'a reconnu plus ou moins.
Je pense.
Oui, donc là, rien à voir avec.
Mais ça n'a rien de commun. J'ai souvent entendu cette comparaison ces derniers jours, ça n'a rien de commun.
Alors, on va reparler de politique française, mais si vous le voulez bien, on va faire un petit détour par l'Autriche. Alors, qui gouverne avec l'extrême droite et le nouveau chancelier, c'est plus Emmanuel Macron qui est le plus jeune des leaders
de
l'Europe.
Ne plus être le plus jeune.
Voilà, il y a un moment, on devient... Voilà. Donc l'extrême droite, il va gouverner avec l'extrême droite, ce chancelier, et cette extrême droite obtient pas moins de 6 ministères, dont celui de l'intérieur, de la défense et des affaires étrangères. Alors, la retenue du gouvernement français a fait réagir. À gauche, je vous propose d'écouter Luc Carnouvas, député du PS. On l'écoute.
J'aurais aimé entendre un peu plus de voix politiques ce week-end sur ce qui est en train de se passer en Autriche. Hein, que ce soit dans, dans l'actuelle majorité, j'ai pas entendu le son de la voix de qui que ce soit ou de ceux qui ont dirigé ce pays jusqu'à là. Parce que ce qui est en train de se passer, vous avez juste trois ministres régaliens en Autriche qui viennent d'un parti d'extrême droite, il y a juste un petit sujet. Et j'aimerais bien qu'on en parle au moment où l'Autriche va diriger l'Europe au deuxième semestre 2018. Mais j'aurais aimé entendre la voix du président de la République, puisqu'il se targue d'être une voix forte en Europe.
Alors voilà, on connaît la volonté de non-ingérence d'Emmanuel Macron sur la vie politique des pays quels qu'ils soient. Cela dit, est-ce que cette non-ingérence n'a pas des limites?
Oui, le peuple autrichien s'est exprimé. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'idée européenne et pour les valeurs européennes, le score réalisé par l'extrême droite en Autriche? Non, pas une bonne nouvelle. Bien, cela marque, la défiance des peuples européens à l'égard aussi de l'Europe, parce que vous êtes dans un pays où vous avez un taux de chômage très faible et où donc manifestement la question de l'adhésion à un projet commun et à un vivre ensemble ne repose pas uniquement sur des fondamentaux économiques, mais sur des questions identitaires. Et donc la meilleure réponse à faire, ça n'est pas de les mettre de côté, de ne pas parler, mais au contraire d'apporter des réponses politiques à l'expression qui s'est faite dans les urnes d'une inquiétude, d'une absence de protection. C'est sans doute un besoin de protection qui s'est exprimé. Par ailleurs, moi je veux souligner une chose. Le chancelier a gardé auprès de lui la question des affaires européennes et le portefeuille des affaires européennes, qu'il n'a pas laissé au ministre des Affaires étrangères, issu donc du FPO. Donc il y a une volonté, et il a marqué cela aussi en conservant le portefeuille des affaires européennes, son attachement à la construction européenne, son attachement à l'identité européenne.
Est-ce que le fait que quand même l'extrême droite ait des postes régaliens, dont la défense, dont... est-ce que ça vous inquiète?
La meilleure réponse à cela, c'est que l'Europe, demain, puisse proposer des protections concrètes à nos concitoyens. Parce qu'il y a une inquiétude, et je ne parle pas que de la question migratoire. Au fond, il y a une inquiétude... une angoisse vis-à-vis de la mondialisation, vis-à-vis de la globalisation, parce que elle est génératrice, eh bien, parfois de désindustrialisation, parfois de perte d'emploi dans certains secteurs, etc. Donc il faut qu'elle puisse apporter de la croissance économique, mais aussi de la protection. Et c'est sur ce champ-là de la protection que l'Union a échoué depuis 15 ans, que les premières victoires à petits pas sur la directive des travailleurs détachés, eh bien, nous les avons obtenues parce que nous avons mis le débat sur la place. Alors certains nous diront « Ah oui, mais ils n'ont pas obtenu assez ». Très bien, eux n'avaient rien fait depuis 15 ans. Donc on a obtenu un peu. C'est en allant sur le terrain de la protection et pas uniquement sur le terrain d'une Europe où il y a une liberté de circulation des biens, des services et des capitaux, mais aussi sur une Europe de la protection, nous répondrons aux angoisses exprimées et où vous voyez les populismes monter en Autriche, mais pas uniquement, dans les pays d'Europe centrale. Vous avez un populisme ambiant qui monte. La meilleure réponse à y apporter, c'est la protection.
Alors vous dites, oui, ce qui est rassurant, entre guillemets, je ne sais pas si vous avez employé ce mot-là, mais c'est que le chancelier autrichien ait gardé ce portefeuille des affaires européennes. Pour autant, est-ce que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Autriche, dans la plupart des ministères régaliens, n'est pas un mauvais signal pour le projet européen porté à la fois et notamment par Emmanuel Macron, mais également par la chancelière allemande?
Écoutez, nous nous porterons le projet auquel nous croyons, qui est fondé sur des valeurs très simples. La liberté, la justice sociale, à savoir qu'une croissance n'est bonne que si elle est partagée, et l'horizon européen comme étant le garant de notre souveraineté. Notre souveraineté nationale, elle ne se renforcera que dans un horizon européen et pas uniquement en nous recroquevillant sur nous-mêmes. C'est ça nos convictions. Donc on ira voir nos partenaires. On ira voir l'ensemble des pays européens. C'est ce que Christophe Castaner va engager avec le
même
mouvement.
Même l'Autriche, alors.
Mais évidemment, on va parler avec tout le monde. Enfin, on va pas choisir les gens avec qui on va parler. On va parler à tout le monde et on va parler aux citoyens. Si on fait ça entre gouvernements, ça ne fonctionnera pas. Ce qui a été le mal européen depuis 20 ans, c'est que tout a voulu être géré entre les gouvernements. Il faut parler aux citoyens. Il faut dire aux citoyens, voilà ce qu'on veut faire de l'Europe très concrètement. Voilà les projets concrets sur lesquels on peut avancer. Est-ce que vous êtes en ligne ou pas? C'est ça, au fond, qui a manqué en Europe. C'est des choses très concrètes et très incarnées.
Il y a 17 ans, la mise à l'écart de l'Autriche après l'arrivée au pouvoir de Jörg Haider n'a servi à rien, c'est une erreur.
On voit le résultat aujourd'hui. Quand vous mettez à l'écart, quand vous sortez du champ démocratique et du champ de la discussion des personnes, eh bien, vous les excluez. Regardez le résultat.
On va passer à d'autres sujets. Vous disiez que le populisme monte, le besoin d'indépendance aussi. On l'a vu avec la Catalogne. Et puis, alors, est-ce que c'est, on va dire, une spécificité française? Parce que la Corse en est une. Véronique, vous vouliez poser une question sur la Corse.
Oui, sur la Corse. Alors, on sait que des discussions vont s'ouvrir. Il y a même une Madame Corse, c'est Jacqueline Gourault, du ministère de l'Intérieur, qui va donc dialoguer avec le nouveau pouvoir corse, qui sera nationaliste, qui prendra ses fonctions le 2 janvier. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, en revanche, c'est sur quoi on va discuter, quelles sont ces nouvelles compétences spécifiques qui pourraient être confiées à la Corse.
Alors d'abord, l'élection qui s'est tenue en Corse, c'est une élection locale. Le scrutin ne portait pas sur l'autonomie ou l'indépendance. J'aime juste à le rappeler.
Donc ça,
parce
c'est
que
vos lignes rouges sur...
Non, c'est pas une ligne rouge, ouais. C'est un scrutin territorial. Attends. Qui était lié au fait que la Corse a une spécificité, reconnue d'ailleurs dans sa structure même, puisqu'il y avait deux assemblées départementales et une assemblée régionale qui ont été fusionnées dans une collectivité territoriale unique, qui verra le jour début janvier, avec un exécutif qui se mettra en place. Bien. Et donc dans ce cadre-là, de quoi on parle quand on a la tête d'une collectivité ? De transport, de développement économique, d'accès aux soins, d'environnement, de ce qui fait le quotidien des habitants de la Corse. Mmh. Et évidemment, il y a une spécificité avec les sujets qui ont été mis dans la campagne par les représentants, et notamment par la liste conduite par Gilles Simeoni. Eh bien, les discussions s'engageront, mais nous avons des principes simples. La langue de la République, c'est le français. Il n'y a pas en France de prisonniers politiques. Il y a des personnes qui ont été condamnées pour des crimes de sang, qui sont en train de purger des peines et qui sont des criminels, pas des prisonniers politiques. Ça, c'est la deuxième chose. Et on n'a pas vocation à avoir des citoyens avec différents droits.
Donc on parlera...
Sur ces sujets-là, il y a la loi de la République et les règles constitutionnelles, mais on peut ouvrir beaucoup de discussions sur le quotidien, sur le développement économique, sur comment offrir un avenir à la jeunesse.
Ces discussions seront ouvertes avant la venue du président sur l'île début février.
Écoutez, le Premier ministre a appelé Gilles Simeoni le soir même de son élection. Donc vous voyez que, Jacqueline comme Gouraud avec l'ensemble des collectivités locales, nous avons un dialogue constructif. Alors, et Jacqueline Gourault mènera ce dialogue avec le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement sur les différentes politiques mises en place.
Plusieurs questions de l'actualité française, puisque vous êtes donc porte-parole, donc on en profite. Donc le nouvel aéroport Notre-Dame-des-Landes ne devrait pas voir le jour, visiblement, c'est ce qu'on a compris des rapports qui ont été...
Vous avez une lecture engagée du rapport.
C'est ce qu'on comprenait.
On comprend deux choses du rapport qui a été remis.
Alors allez-y.
Un, qu'il y a un besoin aéroportuaire dans le Grand Ouest français.
Oui.
Chose qui n'avait jamais été établie de manière certaine.
Oui.
Donc là, première question à laquelle il fallait répondre. Et la deuxième, c'est est-ce que Notre-Dame-des-Landes est la seule alternative? Non, il y a une alternative à Notre-Dame-des-Landes,
l'extension. Voilà.
Les deux projets présentent des inconvénients. Ouais, on ne va pas se raconter d'histoire. Les deux projets ont leurs inconvénients. Et donc
il n'y a pas de en même temps, là, du coup, à faire.
Non, ce sera l'un ou l'autre. Et il y aura des discussions. Ouais. Il est normal, quand on a un report qui est remis, avec les élus, avec les associations environnementales, avec les représentants du monde économique du Grand Ouest. Et la décision sera prise avant la fin du mois de janvier. Chose nouvelle, s'il en est, sera appliquée.
Et il y a un autre sujet, il y a un autre aspect, c'est la ZAD, zone à défendre. Alors, qui demande aussi du doigté, parce qu'on se souvient de l'accident de Sivens, ce qu'on peut appeler peut-être une bavure, où un jeune avait été tué par une grenade tombée dans son Rémi Fraisse, dans son sac à dos. Voilà. Alors là aussi, le gouvernement va être testé, on va dire, sur affirmer son autorité là-dessus aussi. Est-ce que c'est pas un crash test pour Emmanuel Macron?
Soit il y a le choix de faire l'aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes, il y a donc une évacuation de la ZAD. Soit c'est la deuxième option qui est retenue, à savoir l'extension de l'aéroport existant. Quel cas, les personnes qui sont sur la ZAD n'auront plus aucune raison d'y rester.
Dans les deux cas, les
règles de la République et le droit sera respecté.
Autre sujet d'actualité, c'est la com du président. Donc les réseaux sociaux sont enflammés ce week-end. J'imagine que ça vous a pas échappé. Le président Macron
d'échapper aux réseaux sociaux.
Oui, il vaut mieux parfois. Il vaut mieux anxiogène. Je suis d'accord. En tout cas, le président avait décidé de fêter son anniversaire à Chambord. En cherchant un peu, on a vu, et ça, le soufflet est un peu retombé, qu'en vérité, il a loué une salle et logé lui et sa famille dans les dépendances très abordables. En revanche, certains y ont vu quand même une espèce de maladresse, comme si un lieu royal comme il avait, on se souvient qu'il avait évoqué un moment dans, avant d'être président, cette figure du roi qu'il est surnommé Jupiter, etc. Cette espèce de rémanence, on va dire, monarchique, est-ce que c'était pas, voilà, est-ce que c'était une maladresse? Est-ce que vous comprenez qu'il y a eu cet émoi sur Twitter?
Écoutez, vous savez, Twitter, faut toujours être très prudent. L'émoi sur Twitter est parfois très organisé et très instrumentalisé par quelques opposants politiques. Donc ça a été le cas une fois de plus, oui. Il a occupé avec sa famille, payé sur ses fonds personnels, ce qui n'a pas toujours été le cas à mon avis par passé de la part des présidents de la République.
Je vous parle pas de ça, je vous parle de l'image que ça donnait.
Dans un gîte, bon, très bien. Très franchement, il faut pas aller chercher d'interprétation au-delà de cela. C'était par ailleurs à proximité de Paris.
Il savait que nécessairement il aurait, entre guillemets, ce procès-là, puisque voilà, l'opposition venait le tacler en tant que président des riches, il va à Chambord, voilà.
Très bien, il serait allé ailleurs, on aurait fait un procès différent à chaque fois. Vous savez, il y a des gens qui passent leur vie à faire des procès, et puis il y a des gens qui avancent, des gens qui font des choses.
Bon, s'il était...
Il fait partie de la deuxième catégorie.
S'il était allé à la lanterne, voilà, on échappait à ce genre...
Pas forcément.
Je suis pas certain, par ailleurs.
Pas forcément, et s'il avait invité sa famille à la lanterne...
Vous voyez bien que...
Est-ce qu'il s'est dit, j'ai pas le choix.
Il sépare strictement ce qui relève de sa vie privée, de sa vie en tant que président de la République. Et sur cette affaire-là, il a réglé la totalité sur des fonds personnels et pas sur des fonds publics. Je crois que ça peut être salué qu'il l'ait fait là où il avait envie de le faire. C'est heureux. Il y a passé, je crois, un très bon moment en famille et c'est l'essentiel.
Donc vous dites circuler, il n'y a rien à voir. Véronique, vous vouliez poser une question.
Oui, en voyant ce qui se passe au Conseil national du numérique, voilà, on avait un début de crise en début d'après-midi avec la démission fracassante de sa nouvelle présidente Marie Eklund. On a appris dans l'après-midi qu'une vingtaine de membres de ce fameux Conseil du numérique partaient également, également parce qu'ils condamnaient l'éviction de Roca Diallo. C'est un sabordage du Conseil national du numérique auquel on assiste.
Marie Eklund a expliqué d'ailleurs dans une longue lettre qu'elle a rendue publique dans la journée, que les conditions du débat, d'avoir un débat serein, n'étaient pas réunies au sein du Conseil national du numérique, ce qui a entraîné la démission d'un nombre important de membres du Conseil.
Oui.
Il y aura un nouveau Conseil national du numérique qui sera nommé, j'imagine, très rapidement, mais il n'y a pas...
Mais le premier, c'est s'aborder, vous êtes d'accord avec moi, puisqu'il va y en avoir un nouveau.
C'est les conditions d'un débat serein, et le Conseil national du numérique a une mission importante dans le monde dans lequel nous vivons. C'est d'anticiper les mutations du monde numérique, c'est la question de la neutralité du net qui a été beaucoup discutée, et qui est éminemment discutée en ce moment, en particulier suite aux décisions prises aux États-Unis. Et donc il faut que ce Conseil national du numérique puisse débattre sereinement, les conditions d'un débat serein n'étaient pas réunies, donc ce sera un nouveau Conseil qui se réunira et qui travaillera de manière sereine et apaisée.
Marie Eklund, l'ex-patronne de l'ex-Conseil national du numérique dans sa première version, s'en va parce qu'elle trouve qu'on a caricaturé Rokhaya Diallo. Est-ce que vous pensez qu'on a fait, qu'on a assisté à une caricature de Rokhaya Diallo et dans ses prises de position?
Si vous me demandez
notamment,
si je partage les propos qu'a pu avoir Madame Diallo, à l'évidence, c'est non. Je ne considère pas en France qu'il y a un racisme d'État institutionnalisé. Vous n'avez pas dans un bureau d'un ministère quelqu'un qui est chargé d'organiser le racisme d'État.
Donc finalement, vous regrettez...
Ça n'est pas quelque chose d'acceptable, à mon sens. En tout cas, moi, c'est quelque chose dans lequel je suis avec une profonde opposition. Et par ailleurs, je ne partage pas non plus sa position sur les camps non mixtes.
Avant de nous quitter, il nous reste quelques instants avant de nous quitter. Le bilan que vous faites, dans le fond, à cette fin d'année, cette fin d'année 2017, du bilan de votre action et de celle du président de la République, si vous aviez un bilan à faire.
On nous a beaucoup taxé d'amateurisme, et notamment, je pense à nos parlementaires. Je me souviens du procès qui leur a été fait l'été dernier en disant « ils découvrent le Parlement ». Jamais le pays n'aura été autant transformé en aussi peu de temps. Alors on nous dit « vous lancez trop de chantiers, trop vite, tout de suite ». Mais parce qu'il y a beaucoup d'impatience dans le pays. Et au fond, la politique qui est conduite depuis 6 mois, c'est pour répondre à cette impatience, c'est pour engager des transformations en profondeur. Ça mettra du temps à produire ses effets dans beaucoup de domaines. Ouais. C'est pour ça qu'il était important de le faire rapidement. C'est au fond le respect que l'on doit aux Français qui nous ont fait confiance, qui ont fait un pari d'élire un jeune président avec une majorité nouvelle de gens issus de la société civile, du monde professionnel, et auxquels je sais que nos parlementaires veulent rendre hommage dans le travail acharné qu'ils ont. Moi, je veux saluer le travail qui a été fait depuis 6 mois au Parlement. Je trouve que pour des amateurs, Nous donnons pas mal de leçons à de grands professionnels.
Merci beaucoup Benjamin Griveaux d'avoir été notre invité. Merci Véronique Rigolet et merci à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite, à bientôt.